Amis de la poésie et des mathématiques, bonjour. Je voudrais ici vous raconter ma rencontre avec l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, cercle de poètes pas tous disparus, bien heureusement, qui a été créé entre autres par Raymond Queneau, dont il sera beaucoup question ici, et qui explore tous les jeux d'écriture imaginables jusqu'aux confins du compréhensible, avec quelques passages de l'autre côté, il faut bien l'avouer. On y reviendra. Le lecteur qui s'y risque doit probablement s'attendre à se cogner 100 fois à des phrases torturées, alambiquées, mal agencées et à la construction grammaticale défiant un peu tout ce que la maîtresse nous avait appris. Il y a de grandes chances que certains ouvrages de l'Oulipo tombent des mains du plus volontaire des lecteurs. Bien sûr, c'est un droit absolu du lecteur que d'éprouver la loi de l'apesanteur à l'aide de tout objet littéraire non identifié qui lui glisserait visiblement entre les yeux. Mais il serait sûrement dommage que celui-ci tombât uniquement parce qu'on n'aurait pas su ou pas pu en deviner les clés de lecture qu'un cochon de poète aura dissimulé en prenant soin de cacher soigneusement ses traces. Il y a même certains poèmes qui sont morts, notez le manque de savoir-vivre de ces gens-là, sans jamais dévoiler à personne de quoi leur mot était le nom. C'est qu'il y a mille façons de lire et qu'il faut parfois faire un pas de côté inattendu pour qu'un texte donne à voir tout ce qu'il nous cachait jusque-là. C'est comme ce dessin à la craie long de 30 mètres qui s'étalait dans la cour de mon collège. Combien d'élèves ont passé des récréations entières à tourner autour et à s'interroger sur le sens caché d'un tel dessin. Jusqu'à ce qu'un des élèves du club d'illusion d'optique les prenne par la main et les emmène à l'endroit très précis où, en fermant un œil, un cube magique en lévitation apparaissait en plein centre de la cour. Et si c'était ça, la lecture ? Et si jamais un texte devant lequel nous sommes restés 99 fois interdits finissait à la 100e lecture par se transformer sous nos yeux émerveillés? C'est un petit voyage de ce genre au cœur de la poésie oulipienne auquel je vous invite maintenant. Un des points de départ de cette histoire est la présentation il y a quelques années de 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau à une classe de 4e en cours de mathématiques. Ce livre est une belle occasion d'introduire la notion de puissance et d'étudier quelques grands nombres. Avec mes élèves, nous nous sommes d'abord interrogés sur le titre du livre. Se pouvait-il vraiment qu'il y ait 100 000 milliards de poèmes à l'intérieur? Et la première hypothèse formulée par mes élèves a été que les poèmes devaient être écrits tout petits. En essayant d'étudier cette hypothèse, on a mesuré une ramette de papier et calculé que même en écrivant 100 poèmes par feuille A4, on devrait être devant un ouvrage de 100 000 km d'épaisseur, soit 2,5 fois la circonférence de la Terre. On a même essayé de refaire le calcul de Queneau lui-même dans son mode d'emploi en comptant une minute par sonnet et en s'y mettant à 8 heures par jour, 200 jours par an, on en a pour plus d'un million de siècles de lecture. Comment était-il possible alors que cet ouvrage d'à peine 2 cm d'épaisseur puisse contenir 100 000 milliards de poèmes? C'est qu'il était peut-être temps de se poser la question, mais au fait, qu'est-ce qu'un poème? Est-ce qu'une phrase? Est-ce qu'un mot? Est-ce qu'un texte est un poème? Est-ce qu'une liste de courses est un poème? Les amoureux de Nino Ferrer répondront ici que oui. Ceci est un poème, quand les autres n'y verront qu'une simple liste de courses sur laquelle, en plus, on a mis 2 fois des cornichons, c'est vraiment n'importe quoi. Est-ce qu'une page blanche est un poème? Tout à l'heure, je vous en montrerai une qui me paraît constituer l'une des plus belles pages de la poésie française, et j'espère bien que je réussirai à vous faire partager mon émotion. Mais pour revenir à cette liste de courses qui nous préoccupe, on pourrait poser, comme première définition, un poème est un texte que l'on reconnaît comme un poème. Certes, c'est un peu tautologique comme définition, mais si l'on y pense, depuis notre plus tendre enfance, on nous présente de temps en temps un texte à recopier dans nos cahiers à grands carreaux et dont on nous apprend qu'il s'agit d'un poème. Il y a même des formes que nous avons appris à reconnaître, comme celle du sonnet composé de 2 quatrains et de 2 tercets d'alexandrins, comme la forme la plus académique du poème avec un grand P. En regardant celui-ci de plus près, on lit La Commission européenne. Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu le règlement CE numéro 2612... Non, stop, la forme ne va pas du tout. En fait, ce texte-là, je l'ai plutôt trouvé sous cette forme-là, qui correspond bien mieux, en termes de mise en page et de choix de police, à un texte comme celui-ci. Pourtant, il n'est pas tout à fait exclu que le technocrate à lorgnon qui a pondu ce texte y trouve un certain style, voire une certaine poésie, et sait-on jamais y a glissé des allusions cachées et coquines que seul sa chef de service, dont il est secrètement amoureux, pourrait un jour découvrir. Parfois, bien sûr, la forme et le fond se complètent si parfaitement qu'il ne fait plus aucun doute que nous sommes en face d'un petit chef-d'œuvre de la poésie, comme ce calligramme d'Apollinaire. Reconnais-toi, cette adorable personne, c'est toi. Sous le grand chapeau canotier, voici l'ovale de ton visage. Mais tant d'autres fois, le poète aura semé des cailloux gris pour nous égarer volontairement dans un jeu permanent de forme et de fond. On croit reconnaître une forme, un signe, et le voilà déjà nous entraînant dans un nouveau pas de côté. Et comme pour mieux vous égarer un peu plus, je dois bien vous avouer que j'ai trouvé ce texte-ci dans « Joconde jusqu'à 100 », un petit recueil de poésie de l'oulipien Hervé Le Tellier, le récent prix Goncourt, dont je vous parlerai plus longuement lors d'une prochaine intervention. Mais si un poème est un texte que l'on reconnaît comme un poème, la question est « comment apprend-on à reconnaître ?» Une expérience en intelligence artificielle va nous éclairer sur cette question. On appelle intelligence artificielle un programme capable d'apprendre seul, par association, après lui avoir fourni un grand nombre de données. Par exemple, on fournit au logiciel une photo de vache dans un pré, associée à la phrase « ceci est une vache ». À force d'enregistrer des associations de ce type, le programme est capable, au bout d'un certain temps, d'associer le bon commentaire à une photo de vache qui ne lui a pourtant jamais été présentée. C'est au fond exactement ce que nous faisons avec nos enfants, hein, dans la voiture. « Regarde une vache, et là, un cheval !» Et au bout de quelques temps, l'émotion et la fierté nous gagnent. Notre petit programme assis sur la banquette arrière a dit « Vasse !» en désignant... bon, d'accord, là, c'était un mouton. Mais un gros, avec le poil ras... Oui, bon, on s'égare. Revenons au programme d'intelligence artificielle Norman. Les programmateurs ont fait le choix particulier de ne lui présenter que des images atroces, des morts très explicites et des scènes de désolation avec les descriptifs associés. Ensuite, on a soumis ce programme au test de Rorschach. Et évidemment, là où nous voyons des oiseaux, des papillons et des bouquets de fleurs, le programme Norman y a vu la seule chose qu'il avait appris à reconnaître, la mort et les atrocités. Voici quelques exemples. Pour la première image, tandis qu'un programme d'intelligence artificielle classique reconnaît des oiseaux posés sur le dessus d'une branche, le programme Norman, lui, y voit un homme électrocuté et attrapé à mort. Dans le deuxième cas, il y voit un homme abattu, contre un gros plan d'un vase avec des fleurs pour un programme classique. Et enfin, pour le dernier, il voit même, quelle horreur, un homme tombant dans une machine à pâtes. Cette expérience me semble être une puissante métaphore de la lecture. Norman lit le monde à partir de ses propres connaissances et reconnaissances, comme nous tous en sommes. Et remarquez d'ailleurs que nous faisons tous en ce moment un test de Rorschach permanent en reconstruisant des moitiés de visage cachées derrière des masques. C'est bien à partir de nos connaissances intérieures que nous lisons ces nouveaux visages dont il nous arrive de dire, une fois le masque tombé, « Tiens, tiens, celui-là ne se ressemble pas du tout. » Du reste, avec ou sans masque, la lecture d'un visage ou de quoi que ce soit d'autre est toujours probablement une affaire de reconnaissance et d'association mentale. Quant à Norman, je vous rassure, l'expérience finit bien. Les programmateurs ont demandé aux internautes de bien vouloir rééduquer Norman en postant en ligne leur propre lecture des tâches de Rorschach jusqu'à ce que la beauté et la poésie finissent par noyer dans la multitude le noyau initial d'affreuses informations qui avaient été pour un temps ses seules connaissances. Et c'est pour poursuivre ces réflexions sur la lecture que je vous emmène maintenant dans Idéogramme chinois du poète Henri Michaux. Henri Michaux décrit ces idéogrammes comme autant de dessins qui jadis étaient explicites et figuratifs et s'alignaient dans des sortes de BD sans parole pour devenir petit à petit plus abstraits, plus symboliques, de véritables codes secrets réservés aux initiés. Idéogramme sans évocation. Caractères variés à n'en pas finir. La page qui les contient ? Un vide lacéré. Lacéré de multiples vies indéfinies. Il y eut pourtant une époque où les signes étaient encore parlants, ou presque, allusifs déjà, montrant plutôt que chose, corps ou matière, montrant des groupes, des ensembles, exposant des situations. Il y eut une époque. Il y en eut d'autres. Passage. Le goût de cacher l'a emporté. La réserve, la prudence l'a emporté. La retenue naturelle, l'instinctive tendance chinoise à effacer ses traces, à éviter de se trouver à découvert. Le plaisir de se tenir caché l'a emporté. Ainsi, l'écrit désormais à l'abri, secret. Secret entre initiés. Ainsi, Henri Michaux nous suggère l'idée que un texte est toujours un mystère à décoder, et que la lecture serait donc l'enquête, l'investigation par laquelle nous parviendrions à résoudre cette énigme. Eh bien, soit. Déconnons. Voici ce que pourrait être le message reçu par le cerveau d'un enfant de 3 ans qui jetterait un œil sur le journal posé sur la table du salon. Quelle connaissance ou reconnaissance devrait-il mobiliser pour résoudre cette énigme ? Lorsque l'on fait ce genre d'activité avec les élèves en cours de mathématiques, la première connaissance que l'on exploite est que la lettre E est généralement la plus fréquente dans un texte en français. Donc, s'il s'agit bien d'un texte en français, et s'il n'a pas été choisi parmi les textes d'un oulipien qui se serait donné comme contrainte de modifier la fréquence ordinaire des lettres, en essayant par exemple de mettre un maximum de A, l'intrigue se passerait entre Guadalajara, Jakarta et Caracas, les personnages seraient Marla, Sandra et Amalia, mais supposons que non, que la lettre la plus fréquente est bien un E. Les deux petits mots que nous apercevons alors sont très probablement « et » et « en », surtout quand on constate que ces deux lettres se retrouvent à plusieurs endroits dans le texte, notamment sous la forme de « e », cette lettre, une autre lettre, probablement « ent ». Avec ces N et ces T, on peut se lancer dans d'autres hypothèses. Ces quatre petits mots sont probablement EST, ce qui nous est confirmé par le fait que la lettre mystère se trouve doublée dans ce mot-ci. Ce mot qui, très probablement maintenant, doit se terminer par session, et nous voici en possession des I et des O du texte qui se dévoilent petit à petit sous nos yeux. Certains passages du texte sont désormais transparents. On sait aussi maintenant les A et les U. Et certains résultats nous donnent même les C, les R et les L. Nous avons ainsi découvert les 11 lettres les plus communes dans la langue française, celles qui composent le mot ulcération au pluriel et qui est devenue la base de plusieurs jeux oulipiens, par exemple produire un texte n'utilisant que ces 11 lettres-là. Par exemple, cet alexandrin qui n'en utilise même que 7, les lettres du mot tout et du mot rien. Enterré, tout est rien, ni être tout ou rien. Ou bien s'amuser à supprimer dans un texte toutes les lettres qui ne seraient pas des lettres du mot ulcération et s'apercevoir que le texte est pratiquement lisible. Même si cette fois, le décodage du texte va nécessiter des connaissances grammaticales, de sens, de vocabulaire. Allons-y. C'est bien. Je commence. J'ai été informé personnellement et en très haut lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé. Cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession. Comment sait-on cela ? Demanda Huin. Et nous voilà donc devant le dernier problème, celui de connaître, de reconnaître les noms propres dans un texte. Et on n'a plus vraiment le choix. Il faut ici reconnaître la lettre volée d'Edgar Poe et son célèbre détective Dupin. Ce Dupin de Poe est une sorte de Sherlock Holmes, ou plutôt chronologiquement, Sherlock Holmes est une sorte de Dupin, même s'il vaut mieux ne pas s'aviser de le dire ainsi à Holmes. C'est ce qu'a fait Watson lors de leur première rencontre dans une étude en rouge, et Holmes le reprend. Sans doute, Watson, croyez-vous me faire un compliment en me comparant à Dupin? Or, à mon avis, Dupin était un être très inférieur. Cette façon qu'il avait de deviner les pensées de ses amis après un quart d'heure de silence était très prétentieuse et superficielle. Même s'il y a peu d'éléments ici sur ce qu'Holmes se reproche à Dupin, et cette sentence pourrait bien être que le fruit de l'aigreur constante du personnage vis-à-vis de l'humanité tout entière, je tenterai tout à l'heure une petite hypothèse sur ce qui pourrait différencier Holmes de Dupin. Mais revenons d'abord au texte. Ainsi décodé, connu et reconnu, voici cet extrait de la lettre volée d'Edgar Poe. C'est bien, je commence. J'ai été informé personnellement et en très haut lieu qu'un certain document de la plus grande importance avait été soustrait dans les appartements royaux. On sait quel est l'individu qui l'a volé. Cela est hors de doute. On l'a vu s'en emparer. On sait aussi que ce document est toujours en sa possession. Mais comment sait-on cela ? Demanda Dupin. Cela est clairement déduit de la nature du document et de la non-apparition de certains résultats qui surgirait immédiatement s'il sortait des mains du voleur, en d'autres termes, s'il était employé en vue du but que celui-ci doit évidemment se proposer. Veuillez être un peu plus clair, dis-je. Eh bien, j'irai jusqu'à vous dire que ce papier confère à son détenteur un certain pouvoir, dans un certain lieu où ce pouvoir est une valeur inappréciable. Si j'ai choisi cette nouvelle, la lettre volée d'Edgar Poe, c'est parce qu'elle me permettait de poursuivre ma métaphore sur la lecture comme connaissance et reconnaissance du monde. En effet, dans cette nouvelle, un ministre, Noctambule, dérobe un document compromettant dans les appartements royaux. On est sûr que la lettre volée est dans son appartement que le préfet en charge de l'enquête fouille pouce par pouce, ligne par ligne, chaque fois que le ministre est de sortie. Les barreaux des chaises ont été passés au microscope pour vérifier la moindre trace de poussière pouvant indiquer le passage d'une vrille creusant un trou de la taille d'une grosse aiguille dans lequel insérer la lettre roulée finement. Chaque coussin a été transpercé de longues et fines aiguilles, les plateaux des tables enlevés, les plinthes étudiées à la loupe. Chou blanc. Nuit après nuit, la lettre est introuvable. Finalement, Dupin devinera que le ministre l'a tout simplement laissé traîner sur la table de travail où le préfet l'a soulevé 20 fois pour voir si elle ne cachait pas un trou microscopique dans le bois du secrétaire et sans voir, sans savoir voir, sans pouvoir voir qu'elle était entre ses mains. En d'autres mots, le préfet s'obstinait nuit après nuit à lire l'appartement du ministre toujours avec le même point de vue et faisant chou blanc à tout coup sans parvenir à faire ce pas de côté qui lui aurait donné le nouveau point de vue révélant enfin la solution. Et le lecteur de poésie se trouvera lui aussi souvent dans cette position très inconfortable. Là où ma bagarre commence avec Poe, c'est lorsqu'il dit que le préfet cherche en mathématicien et que le ministre, fin mathématicien lui aussi, a fait un pas de côté de poète pour cacher sa lettre. Je ne suis pas d'accord. Tous les mathématiciens sont des poètes. Cela est hors de discussion. Le préfet a plutôt, selon moi, péché par excès de technique. Nuit après nuit, il a toujours augmenté le niveau de technique utilisé. Les microscopes, les mesures volumétriques de chaque tiroir au quart de ligne cube près pour traquer un double fond. Certes, les mathématiques incluent bien une réflexion sur les techniques et la puissance des outils. Mais le raisonnement mathématique est aussi une réflexion sur l'élégance du discours, la poésie, un certain souci d'économie des moyens en but d'une fin. Ainsi, si certaines critiques de Dupin envers les mathématiciens de son époque sont fondées sans aucun doute, je récuse avec la plus vive énergie celle qui consiste à exclure la poésie du champ des mathématiques. D'ailleurs, intéressons-nous à un autre passage de la lettre volée qui va nous fournir une autre métaphore. Dupin explique à son ami qu'il a connu un enfant de 8 ans dont l'infaillibilité au jeu de père ou impair faisait l'admiration universelle. L'enfant dont je parle, dit Dupin, avait un mode de divination, lequel consistait dans la simple observation et dans l'appréciation de la finesse de ses adversaires. Supposons que son adversaire soit un parfait nigo, et levant sa main fermée, lui demande « pair ou impair ?» Notre écolier répond « impair » et il a perdu. Mais à la seconde épreuve, il gagne, car il se dit en lui-même « le niais avait mis pair la première fois, et toute sa ruse ne va qu'à lui faire mettre impair à la seconde. Je dirais donc impair. » Il dit impair, et il gagne. Maintenant, avec un adversaire un peu moins simple, il aurait raisonné ainsi. Ce garçon voit que dans le premier cas j'ai dit impair, et dans le second il se proposera, c'est la première idée qui se présentera à lui, une simple variation de pair à impair, comme a fait le premier bêta. Mais une seconde réflexion lui dira que c'est là un changement trop simple, et finalement, il se décidera à mettre pair comme la première fois. Je dirais donc pair, il dit pair, et il gagne. Cette métaphore est intéressante de deux points de vue au moins. Premièrement, l'enfant jouant à pair et impair lit son adversaire. Dupin raconte même comment il s'y prend. L'enfant dit « Je compose mon visage d'après le sien, aussi exactement que possible, et j'attends alors pour savoir quelles pensées ou quels sentiments naîtront dans mon esprit ou dans mon cœur, comme pour s'appareiller et correspondre avec ma physionomie. » Deuxièmement, cette métaphore donne à penser le coup d'avance. Penser un coup de plus que l'autre, et dans ce cas-là, même un seul coup, hein, parce que deux coups d'avance au jeu de pair et impair, ça nulle. On pourrait donc penser que dans l'affaire de la lettre volée, le ministre a un coup d'avance sur le préfet. Mais alors, c'est qu'ils lutteraient tous les deux dans le même domaine. Par exemple, le préfet croit que le ministre a un coup d'ordre technique d'avance et s'emploie à pousser plus loin sa propre technique. Or, le ministre, plutôt qu'un coup d'avance, a fait un pas de côté. Dupin dit même, non sans m'agacer, « Comme poète et mathématicien, le ministre a dû raisonner juste. Comme simple mathématicien, il n'aurait pas raisonné du tout et se serait ainsi mis à la merci du préfet. » C'est donc son côté poète qui lui a permis de voir la situation comme le préfet ne peut même pas l'imaginer. Et on verra comment Pérec tout à l'heure se joue de nous, pauvre lecteur de son roman La Disparition, pour faire un pas de côté tous les trois mots, si bien qu'on a toujours quelques coups de retard et un mal de cabot à tenter de sortir de son charabia énigmatique. Elle est peut-être là, la différence entre Holmes et Dupin. Pour Holmes, la lecture d'une scène de crime selon l'unique point de vue de sa méthode et de sa science de la déduction est la seule voie. La lecture qu'il est le seul à maîtriser d'une cendre de cigarette le renseigne de manière certaine sur toute une série d'événements qui se sont nécessairement produits, et la lecture complète d'indices invisibles à tous sauf à lui conduisent implacablement à la résolution du crime. Sans être un spécialiste de Holmes, je ne crois pas qu'il y ait une seule aventure où il ait eu besoin de se détourner du chemin tracé par sa science de la déduction pour emprunter un autre point de vue, pour faire un pas de côté, afin d'arriver à la solution du mystère. Et pour conclure ce long aparté, je convoque un dernier personnage, le docteur House. House, c'est une sorte de Holmes. Notez la proximité de leur patronyme, House, Holmes, proximité du point de vue des lettres qui composent ces deux noms, mais aussi du sens Holmes, est assez proche de Home. Les deux sont des êtres asociaux, toxicomanes, et dont l'unique occupation est la résolution d'énigmes, l'un dans le domaine du crime et l'autre dans le domaine médical. Énigmes sur lesquelles tous les autres se sont cassés les dents avant eux. ils sont l'un et l'autre le dernier recours. Ajoutez à cela que pour chacun, un seul être au monde peut supporter leur compagnie. Pour l'un, c'est Watson, pour l'autre, c'est Wilson. Mais contrairement à Holmes, le docteur House est passé maître dans l'art du pas de côté, de ce qu'on appelle la sérendipité. La solution à l'énigme médicale lui vient toujours ou presque d'un autre domaine. C'est même un gimmick de la série. Après avoir échoué dans toutes ses premières tentatives pour guérir son patient, il part jouer au poker avec ses collègues et tout à coup, il se fige car il vient de trouver la solution dans la combinaison des cartes qu'il a sous les yeux. C'est en quelque sorte qu'il a tenté de construire un modèle mental, une structure de la maladie de son patient. Mais le schéma global lui échappe ou du moins certaines pièces n'arrivent pas à s'intégrer de manière logique. Et la structure produite par la combinaison des cartes de poker lui fournit une vision fugace d'un nouvel agencement où tout s'assemble avec harmonie et dans laquelle il comprend enfin le schéma général de la maladie de son patient. C'est exactement ce qui nous arrive quand, en fixant d'un œil absent le poster accroché 15 ans plus tôt dans les toilettes, la dernière définition absconse du dernier mot croisé de Michel Laclos nous apparaît tout d'un coup limpide et tombant sous le sens. Eh oui, vous ne saviez pas que vous faisiez de la sérendipité aux toilettes? Vous avez bien fait de rester jusque-là. D'autant que j'en ai terminé avec ma métaphore sur la lecture, je vous propose donc cette nouvelle définition d'un poème. Un poème est un texte à décoder et dont on pense qu'on aura plaisir à trouver le pas de côté qui nous permettra d'y voir un peu plus clair dans ce merveilleux charabia énigmatique. Entrons en poésie. Nous voici en face de Voyelles d'Arthur Rimbaud. Alors si on a pu se poser la question pendant toute la première partie de savoir ce qu'était un poème, là il ne nous est pas permis de douter. C'est écrit en dessous Arthur Rimbaud. C'est donc de la poésie. Voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Je dirai quelque jour vos naissances latentes. A. Noir corset velu des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles. Golfe d'ombre. E. Candeur des vapeurs et des tentes, lance des glaciers fiers, roi blanc frisson d'ombelles. I. Pourpre, sans cracher, rire des lèvres belles dans la colère ou les ivresses pénitentes. U. Cycle, vibrement divin des mers virides, paix des pâtis semées d'animaux, paix des rides, que l'alchimie imprime au grand front studieux. O. Suprême clairon plein d'estrideurs étranges, silence traversé des mondes et des anges. O. L'oméga, rayon violet de ses yeux. Arthur Rimbaud. Ouais, c'est de la poésie donc. Bien. Arthur Rimbaud, ce petit con, a toujours dit qu'il y avait un truc à voir dans ce poème. Sans jamais dire quoi. Et par conséquent, des dizaines d'étudiants, de chercheurs, se sont brisés les yeux et le cerveau pour lire et relire et voir enfin le fin mot de voyelle. Si ça se trouve, dit mon copain Laurent, il a dit ça pour déconner. Et ça fait des décennies qu'on sue pour pas un rond autour de ce charabia pendant que l'autre, là-haut, il se bidonne en nous regardant. Bon. Si ça se trouve. Mais la poésie n'est pas faite par un, mais par tous, dirait mon queneau. Après avoir piqué la formule à l'autre et à mon. Ainsi, lire voyelle d'Arthur Rimbaud, ce n'est pas lire de la poésie. C'est faire de la poésie. Proposer une grille de lecture, un point de vue, une clé pour ouvrir le mystère, c'est proposer un nouveau poème. Charge au lecteur de ce nouveau point de vue de s'en emparer pour produire à son tour sa part de poésie et d'interprétation et ainsi de suite jusqu'à la fin des temps, lecteur, poète, poète, lecteur, indissociable. Alors on cherche. On compte les voyelles sur chaque ligne, dans chaque quatrain. On lit à l'envers ou par transparence. Ah tiens, je crois que je tiens un truc. Dans Arthur Rimbaud, il y a trois voyelles seulement, le A, le I et le U. Et dans le titre, comme par hasard, les trois autres voyelles, le E, le Y et le O. Ainsi, si on prend juste l'expression « voyelle » d'Arthur Rimbaud, cette expression comporte toutes les voyelles. C'est peut-être ça leur naissance latente. Ou pas du tout. C'est à vous, amis poètes, de décider. Je vais d'ailleurs maintenant vous présenter deux clés de lecture de ce poème, très différentes et poétiquement pertinentes. Celle de Cosmé, dans le roman de Guillaume Meurice, et celle de Robert Forisson, tristement célèbre pour s'être essayé, et avec quel dégât, à l'interprétation de l'histoire avec un grand H plutôt que d'en rester à l'interprétation toujours renouvelée et ne prétend à rien d'autre qu'à rêver de poésie. Robert Forisson donc a vu dans Voyelle de Rimbaud un texte d'un érotisme torride. Voyelle devait se lire voix-elle. Le A noir qui débute le texte était à voir comme un triangle noir, symbole de la toison pubienne. Le E blanc évoquait les seins blancs. Il faut quand même avoir beaucoup d'imagination pour voir dans ce E une paire de seins. Mais en observant le manuscrit de Rimbaud, l'hypothèse tient la route. Le I rouge symboliserait le sexe féminin. Le U vert, une chevelure, sûrement la partie la moins convaincante à mes yeux de la thèse. Et enfin le O bleu, surtout le O du manuscrit, ferait référence à l'œil. Fenêtre de l'âme. D'autres éléments du texte lui paraissaient soutenir son interprétation, cycle, sang craché, rire des lèvres belles. Bon, restera à expliquer le coup des mouches éclatantes qui bombinent autour des puanteurs cruelles, hein. Personnellement, je ne vois pas du tout. Bon, je n'ai pas lu l'essai de Forisson, mais je trouve son hypothèse plus que raisonnable. Mais pour enfoncer le clou sur Forisson, je dirais qu'en matière de poésie, on a toujours le droit de sélectionner les éléments du texte qui vont dans le sens de notre thèse, d'en ignorer d'autres, voire de falsifier ou de tordre certains mots pour leur faire dire le contraire de ce qu'ils veulent dire. C'est même écrit dans la règle du jeu de la poésie. Mais pratiquer les mêmes abus dans des domaines comme l'histoire ou la politique est absolument disqualifiant. Passons donc à Cosmé. Dans un roman intitulé Cosmé, Guillaume Meurice raconte la vie de son ami Cosmé Olvera qui a passé une grande partie de ses nuits blanches à décortiquer voyelles et l'autre partie à écrire ses propres poèmes et à inventer ses propres clés. Voilà comment Cosmé décrit le premier vers de voyelles. A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles. Pour une entrée en matière, poétiquement ça déchire les yeux. Non mais allô quoi! T'es un poète de génie et tu nous ponds l'alexandrin le plus abracadabrantesque et antipoétique de toute la poésie ayant été écrite à ton époque. C'est quoi cette énumération de voyelles, sans même respecter l'ordre? C'est quoi cette association avec des non-couleurs et des couleurs? Tu as dû bien rire à les voir s'échiner à rendre cette chose la plus sérieuse du monde, et de parler de cahiers, d'écoliers, de coloriage et autres à peu près pour rassurer les profanes. C'est vrai que cette entrée en sonnet étonne. Il manque même une voyelle, à moins qu'on considère qu'elle a été cachée dans le dernier mot du vers, voyelle, et même dans le dernier mot du dernier vers, yeux. Et effectivement, les voyelles ne sont même pas dans l'ordre habituel. Et si elles l'étaient, ça ferait au vers. Ah, un point de plus pour Forisson. Si cette fois j'ai bien lu en entier le roman de Meurice, je ne vais pas ici le spoiler comme disent les petits jeunes ou le divulgâcher comme dit le petit Robert. Je vous laisse le plaisir de découvrir ce roman tout à fait original. Il est composé, aux surprises, de 6 chapitres. Le chapitre A, le E, le I, le U, le O et enfin le Y. Chaque chapitre est précédé par un poème original de Cosmé Olvera, le personnage principal du roman. Poème sur lequel on peut passer des jours entiers à chercher les énigmatiques clés, ou bien passer à la page suivante et se plonger dans le récit de sa vie trépidante. Je n'ai pas assez bien lu ce roman pour vous assurer que chaque poème et chaque chapitre entretient un rapport particulier avec la voyelle en tête de chapitre. Mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait des lectures dans la lecture, des clins d'œil métatextuels, comme disent les petits savants. Contrairement à Forisson, Cosmé voit dans voyelle une métaphore biblique. Dans le premier vers du premier tercet, U, cycle, vibrement divin des mers virides, il y voit en particulier trois fois la syllabe vi, vi, qui en chiffre romain donne 6. 6, 6, 6, le nombre de la bête serait caché dans ce vers. Évidemment, ce n'est pas le seul indice, hein, sinon ça serait largement insuffisant, mais cette pièce à conviction s'inscrit dans un faisceau bien plus large de preuves, dont j'ai dit plus tôt que je n'en divulgacherai rien. Il y a notamment le clou du faisceau que je vous laisserai découvrir et qui laisse peu de doute sur le fait que Cosmé touche au vrai du voyelle de Rimbaud. Bon, d'accord, un autre petit indice de Cosmé. Allez. Sur le manuscrit de Rimbaud, cette fois, vous voyez la forme des D minuscules. On dirait des 6. Surtout quand on retourne le manuscrit. Un nouveau 666 se dévoile, et d'autres encore à d'autres endroits du texte. Bon, je n'en dis pas plus, sinon qu'il n'y a pas à choisir entre deux interprétations que je viens de présenter succinctement, mais elles participent toutes deux à une aventure poétique initiée par Rimbaud, ou peut-être par un autre avant lui. Le lecteur que je suis range le chapitre Y du roman Cosmé dans la catégorie « poème ». D'autres en serviront pour caler la table basse du salon, ce qui par conséquent ne nous a pas fait avancer d'un iota sur notre définition d'un poème. Je termine ce voyage au-dessus de voyelles en ajoutant qu'un tel exercice poétique prend toujours le risque de la surinterprétation en voyant des signes partout comme autant de théories du complot. Ah tiens, l'ami de Guillaume Meurice s'appelle Cosmé Olvera. O-L-V-E-R-A. Mais si le L est écrit en minuscule et en script, il fait un I majuscule. Le V de Olvera pourrait bien lui aussi être un U un peu trop pointu. Alors si le R minuscule est lui aussi un Y travesti, Olvera est alors constitué exactement des 6 voyelles qui sont précisément les titres des 6 chapitres du roman, roman qui porte sur le poème voyelle d'Arthur Rimbaud. Mouais. Je dis ça, je dis rien. Revenons à Raymond et à ses 100 000 milliards de poèmes. L'astuce mathématique de ce livre, sur laquelle je reviendrai plus longuement dans une prochaine intervention, consiste à combiner des vers indépendants pour constituer à chaque fois un nouveau poème. Le premier vers, de la première page, pourra servir à débuter plusieurs poèmes, et une fois glissés certains petits volets sous le rabat, nous nous trouvons en face d'un nouveau poème. Le nombre de combinaisons possibles étant de 10 puissance 14, soit 100 000 milliards de poèmes. Personnellement, j'en compte plus que ça. Mais c'est Raymond qui a choisi le titre, et par là décidé de ceux qui en étaient et de ceux qui n'en étaient pas. Ce qui a fasciné mes élèves de l'époque, c'est le fait que si on choisit un poème au hasard, on est très probablement le premier humain à le lire. Ils étaient donc tous impatients de se lancer enfin, de se plonger dans un des 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau, et ce fut celui-là. C'était à 5 cloques que sortait la marquise pour la mettre à sécher aux cornes des taureaux. Il se penchait alors à sa grande surprise, il chantait tout de même, oui, mais il chantait faux. Je me souviens encore de cette heure exquise, quand se carbonisait la fureur des châteaux, un frère même bas et la part indécise, elle effraie le Berry, comme les Morvandiaux. Du Gange au Malabar, le lord anglais zozote comme à Chandernagor, le manant sans la crotte, lorsque Socrate mort passait pour un lutin. On regrette à la fin les agrestes bicoques, exalte l'espagnol les oreilles baroques, mais rien ne vaut griller le morceau de boudin. À la fin de la lecture, ils m'ont regardé, je les ai regardés, on s'est regardé. Ils m'ont dit « Et vous dites qu'il y en a 100 000 milliards comme ça ?» Je leur ai souri. Que pouvais-je faire d'autre ? À moi non plus, ces poèmes de Queneau ne me semblent pas très accessibles. Il doit manquer des clés, des refs, comme disent mes enfants. Il semble que chaque vers soit un monde à lui seul, un poème à lui seul, et qui, combiné aux autres, ouvre de nouvelles portes sur de nouveaux mondes. Oui, c'est bien beau, mais lesquels? Alors, le premier vers, j'ai la ref. C'était à 5 o'clock que sortait la marquise. C'est André Breton, dans son manifeste du surréalisme, qui condamne la phrase « La marquise sortit à 5 heures » comme comble de la banalité ou des conventions romanesques à éviter à tout prix. Évidemment, des poètes joueurs en ont fait des premiers vers de sonnet, des clins d'œil glissés au milieu d'un texte et même des titres de romans. Donc, le premier vers, je tiens un truc. Pour les autres, en revanche, il va falloir apprendre à lire. Et ça peut être très long. Juste un mot, sur le premier vers du deuxième quatrain, je me souviens encore de cette heure exquise. Le E de « encore » a disparu. Raymond sort ici son joker poétique pour éviter un pied de trop à son alexandrin. Mais il nous recolle un E inventé à « exquise ». Pur jeu poétique, on s'arrange avec l'orthographe pour réinventer la langue. C'est dans Asie, dans le métro, que Queneau fait ça avec merveille. Et concernant ce vers, ça permet donc à la césure de tomber à l'hémistiche. Non, ce n'est pas une contrepétrie. Je me souviens encore 6 de cette heure exquise 6. Voilà un vers bien équilibré, à moitié plein, à moitié plein. Et c'est donc suite à cette expérience que je me suis mis en tête d'écrire 100 000 milliards de nouveaux poèmes que je voulais plus accessible. Et puis, je vous cache pas que ça a un peu dérapé. Mais ceci est une toute autre histoire que je vous raconterai une prochaine fois. Pour l'heure, il est temps de plonger, pour conclure cette discussion, dans ce cher charabia qu'est la disparition de Georges Perec. Pour écrire la disparition, Georges Perec s'est donné une contrainte, la contrainte, dont je dois faire motus ici. Sur le quatrième de couverture, un certain Pingo nous avertit. Trahir qui disparut dans la disparition ravirait au lisant subtil tout plaisir. Motus donc, sur l'inconnu noyau manquant, un rond pas tout à fait clos finissant par un trait horizontal, blanc sillon d'un natif où s'abîma un Anton Weil, mais d'où surgit aussi la fiction. Disons sans plus qu'il a rapport à la vocalisation. L'aiguillon paraîtra à d'aucuns trop grammatical. Vain soupçon. Contraint par son savant pari à moult combinaisons, allusions, substitutions ou circonclusions, jamais GP n'arracha au banal discours joyau plus brillant ni si pur. Jamais plus folle alibi n'accoucha d'avatar si mirobolant. Oui, il fallait un grand art, un art hors du commun pour fourbir tout un roman sans ça. Et c'est donc en marchant sur des... Excusez-moi. Que je vous emmène par des chemins un peu raccourcis dans la disparition de Georges Perec. Avant-propos. Trois cardinaux, un rabbin, un amiral franc-maçon, un trio d'insignifiants politicards soumis au bon plaisir d'un trust anglo-saxon ont fait savoir à la population par radio puis par placard qu'on risquait la mort par inanition. On crut d'abord à un faux bruit, il s'agissait, dit-on, d'intoxication, mais l'opinion suivit. Chacun s'arma d'un fort gourdin. « Nous voulons du pain !» criait la population, conspuant patron anti-pouvoir public. Ça complotait, ça conspirait partout. Un flic n'osait plus sortir la nuit. À Mâcon, on attaqua un local administratif. À Rocamadour, on pilla un stock. On y trouva du thon, du lait, du chocolat par kilo, du maïs par quinto. Mais tout avait l'air pourri. À Nancy, on guillotina sur un rond-point 26 magistrats d'un coup. Puis on brûla un journal du soir qu'on accusait d'avoir pris parti pour l'administration. On tuait son frangin pour un saucisson, son cousin pour un bâtard, son voisin pour un crouton, un quidam pour un quignon. On pillait, on violait, on mutilait. Mais il y avait pis, on avilissait, on trahissait, on dissimulait. Nul n'avait plus jamais un air confiant vis-à-vis d'autrui. Chacun haïssait son prochain. Waouh! Sentez-vous comme la lecture est précipitée? On finit chaque paragraphe essoufflé. Et même sans connaître la contrainte que s'est imposée Pérec et qui fait de la disparition l'un des plus longs lipogrammes de la littérature, le style d'abord nous saisit. Les respirations que cherche d'habitude le lecteur à haute voix sont difficilement trouvables, voire ont disparu. Ce n'est pourtant pas d'air qu'on manque, hein, ni même d'eau d'ailleurs. C'est d'autre chose. Mais de là à dire que le lecteur à haute voix risque la mort par inanition comme la population décrite au début du roman, peut-être pas. Mais le lecteur attentif noterait au moins dans un coin de sa tête, comme un indice microscopique que seul Sherlock Holmes aurait su relever, qu'il y a là une coïncidence troublante entre le sort de la population du roman et son propre sort de lecteur. Du reste, et c'est une des clés de lecture de ce roman, les personnages du livre et le lecteur sont pris dans des destins parallèles. Les personnages sont mis sur la piste d'une disparition, de plusieurs disparitions, tandis que le lecteur perd le fil régulièrement et doit donc se positionner lui aussi en enquêteur. J'ajoute que certains proches de Pérec y voient un troisième destin mis en jeu, celui de l'auteur lui-même, qui, ayant perdu ses parents très jeunes durant la Seconde Guerre mondiale, imagine peut-être, à travers l'écriture de ce roman, une vie sans... Oups, excusez-moi, j'ai dû appuyer sur une touche de mon clavier. Ah, je reprends. Bon, il faut dire toutefois que le lecteur a un avantage certain sur les personnages. En effet, les personnages ont la tâche incroyablement complexe de deviner ce qu'il manque. Ce qu'on a perdu, c'est facile. Il suffit de comparer la période où c'était là et la période où ça ne l'est plus et d'écrire tous les changements opérés par cette perte. Mais un truc qui manque... et dont on ne parvient plus à se souvenir de l'existence passée et dont on devine mal la nature. Voilà donc l'impossible énigme soumise à Anton Voyle, notre premier personnage, qui va tourner et retourner le monde qui s'offre à lui pour tenter de percer le mystère dont il a, une fois au moins, aperçu la silhouette floue sur l'un de ses tapis. Chapitre 1. Anton Voyle. Anton Voyle n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son lavabo, il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou, son pouls battait fort, il avait chaud. Il s'accroupit sur son tapis, prit son inspiration, fit 5 ou 6 tractions, mais il fatigua trop tôt, s'assit, fourbu, fixant d'un air là l'intrigant croquis qui apparaissait ou disparaissait sur l'aubusson, suivant la façon dont s'organisait la vision. Ainsi parfois un rond, pas tout à fait clos, finissant par un trait horizontal. On aurait dit un grand jet vu dans un miroir. Ou, blanc sur blanc, surgissant d'un brouillard cristallin, l'hautain portrait d'un roi brandissant un harpon. Il fit tout pour dormir, mais il n'y parvint jamais. Il mit un pyjama à pois, puis un maillot, puis un collant, puis un foulard, puis la gandoura d'un cousin spahi, puis il coucha tout nu. Il fit son lit d'au moins 20 façons. Un jour, il loua à prix d'or un dortoir, mais il tâta aussi du lit pliant, du chalit, du lit clos, du lit à baldaquin, du sac, du divan, du sofa, du hamac. Il frissonna sans drap, il transpira sous un plaid, il compara l'alpha au capoc. Il coucha assis, accroupi, à califourchon. Il consulta un fakir qui lui proposa son grabat à clous, puis un gourou qui lui ordonna la position yoga, son avant-bras droit comprimant l'occiput, il joignit son talon à sa main. Mais tout s'affirmait vain. Il n'y arrivait pas. Il croyait s'assoupir, mais ça fondait sur lui, dans lui. Ça bourdonnait tout autour. Ça l'opprimait. Ça l'asphyxiait. Chapitre 2. Il y avait un manquant. Il y avait un oubli, un blanc, un trou, qu'aucun n'avait vu, n'avait su, n'avait pu, n'avait voulu voir. On avait disparu. Ça avait disparu. Chapitre 3. Plus tard, voulant toujours y voir plus clair, il tint un journal. Il prit un album, il inscrivit en haut du folio initial « La disparition ». Puis plus bas, « Il a disparu ». Qui a disparu ? Quoi ? Il y a, il y avait, il y aurait, il pourrait y avoir un motif tapis dans mon tapis, mais plus qu'un motif, un savoir, un pouvoir. L'on voudrait un mot, un nom, l'on voudrait rugir. Voilà la solution, Voilà Dunaki Mantraka. L'on voudrait pouvoir bondir, sortir du sibyllin, du charabia confus, du mot à mot gargouillis. Mais l'on n'a plus aucun choix. Il faut approfondir jusqu'au bout de la vision. L'on voudrait saisir un point initial, mais tout a l'air si flou, si lointain. Il tint son journal durant 5 ou 6 mois. Dans ce chapitre donc, Anton Weil a choisi d'écrire pour comprendre. Il n'est pas un lecteur passif du monde qui se déploie autour de lui, mais il en est un lecteur-poète, un poète-lecteur indissociable qui fait et refait le monde pour en saisir la clé. Petit aparté, ça me fait penser au Cosmé de Meurice, qui nous dit qu'il a trouvé une des clés les plus importantes, selon lui, du voyelle de Rimbaud, en testant une des clés qu'il avait lui-même inventée pour l'un de ses poèmes particulièrement récalcitrant, dit-il, et qui permettait, comme par magie, d'ouvrir un nouveau monde dans voyelle. Et c'est donc bien en lecteur-poète, ayant manié des heures et des heures des clés de toutes sortes dans son garage de poète, qu'il a finalement eu l'intuition révélatrice. Et c'est aussi en poète que l'Anton Weil de Pérec entend trouver la clé du mystère dont il est le héros. Anton Weil se met à écrire dans tous les sens et nous suivons tant bien que mal ses essais successifs. À vrai dire, c'est un des premiers endroits du livre où j'ai eu la tentation d'arrêter la lecture. Je vais vous lire un extrait des délires littéraires d'Anton Weil, dont j'ai eu plusieurs fois l'impression que le père Pérec nous pissait un peu de la copie pour gonfler son lipogramme et battre le record du monde. On est toujours au chapitre 3. Un jour, il imagina tout un roman. Il y aurait dans un pays lointain un garçon, un bambin du nom d'Aignant. Il aurait 5 ans. Il vivrait dans un palais où tout irait à l'abandon. Un jour, sa nounou lui disait « Jadis, tu avais ici 25 cousins. Alors, nous vivions dans la paix, mais un à un, ils ont tous disparu. L'on n'a jamais su pourquoi. Aujourd'hui, tu dois partir à ton tour, sinon nous allons tous à la mort. » Alors Aignant fuyait. La narration s'ouvrait par un court fabliau-moral. Au sortir d'un layon, un sphinx asseyait Aignant. « Voilà, dit l'hallucinant animal, un parfait sandwich pour mon fricot. Ça faisait un laps qu'on n'avait plus vu un niard aussi dodu sous nos climats. »« Hola, sphinx, hola, » fit Aignant qui connaissait Lacan mot à mot. « Un instant, voyons. Tu dois d'abord accomplir ton fatum. »«
Mon fatum, » fit surpris l'animal. « À quoi bon? Tu fais du chichi. Nul n'a jamais su la solution. »
Il ajouta, pris d'un soupçon subi.
« La saurais-tu par hasard ?»«
Et qui sait ?» dit Aignant, souriant d'un air coquin. « Tu as un air fanfaron qui nous plaît tout à fait, vilain avorton, » poursuivit l'insinuant sphinx. « Soyons donc fair-play, ton ambition adoucira ta mort. Voici mon oral ultimatum. » Il saisit un luth, prit son inspiration, puis s'accompagnant, chanta. « Y a-t-il un animal qui est un corps fait d'un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait plutôt droit ?»«
Moi, moi !» cria l'oraignant.
L'animal biscornu prit un air assombri.
« Tu crois ?»« Mais oui, dit Aignant. »
« Alors tu dois avoir raison, » fit l'animal d'un ton chagrin.
Aignant prit un bâton, il assomma l'animal qui, paumant son aplomb, disparut dans la pique dans un tourbillon sans fin. Mouais. Et les pages suivantes m'ont fait à peu près le même effet. Et puis vint le chapitre 4, qui m'a remis en selle. Chapitre 4. Anton Weil disparut à la Toussaint. 3 jours plus tôt, il avait lu, dans un journal du soir, un rapport qui l'alarma fort. Un individu, dont on craignait tant l'obscur pouvoir qu'on gardait son incognito, s'introduisant à la nuit dans un local du commissariat principal, y avait ravi un pli qu'on disait capital, car on y divulguait la compromission du trio d'argousins qui commandait à la maison Poulaga. Il fallait, pour assainir la situation, ravoir au plus tôt l'inopportun manuscrit, sinon l'hardi fripon saurait à qui l'offrir. Mais quoi qu'on fût sûr qu'il l'avait tapi dans sa maison, qu'on fouilla au moins 20 fois, on n'arriva pas à l'avoir. Jouant son va-tout, un commandant, Romain Didot, qu'accompagnait son adjudant favori Garamond, alla voir Dupin, dont on vantait l'infailli flair. A priori, lui dit-il, nous n'aurions pas dû tant pâtir du vol. Pour tout pli, disons normal, si l'on nous avait ravi un X ou un Y, ça nous aurait fait un faux bond minimal. Mais ici, il a pour filiation un bourdon trop important.
Un bourdon, s'intrigua Dupin, qui à coup sûr ignorait la signification du mot.
Pardon du jargon, sourit Dido. Disons qu'il nous paraît s'agir d'un vol pour nous vital, car il abolit, il fait vain, il fait caduc, tout souci d'organisation. Il affaiblit nos pouvoirs dans la proportion d'au moins 1 sur 5. Or donc, voulu savoir Dupin, l'on a 20 fois soumis la maison du filou à l'Inquisition.
Oui, admit Dido.
Mais l'on fit chou blanc à tout coup.
L'on farfouilla pourtant partout.
Mais voilà qui m'apparaît fort clair, affirma Dupin. Tu fourgonnas partout, tu sondes à murs ou plafonds, mais sans aucun fruit, car tu as un cristallin, mais tu n'y vois pas. N'as-tu pas compris, gros ballot, qu'à coup sûr ton gars avait fait choix d'un abri plus subtil, à savoir qu'il n'avait pas tapi son larcin, qu'il l'avait tout au plus sali ou racorni, ainsi qu'on fait d'un mot banal, puis blotti dans un sous-main où tu l'as pris au moins 10 fois, sans savoir, sans vouloir, ni pouvoir savoir qu'il s'agissait, non d'un chiffon trivial, mais du pli si primordial.
Mais, objurqua Dido, il n'y avait aucun sous-main.
Allons donc, ironisa Dupin. Il mit son Macintosh, prit son riflard, sortit, affirmant « J'y vais, dans un instant tu auras ton papyrus ». Mais quoi qu'il ait raison, du moins dans son calcul, il manqua son coup.
Jadis, au moins, j'avais du pot, murmura-t-il.
Puis, par consolation, il s'occupa, laissant la PJ à son tracas, d'un orang-outan qui avait commis 3 assassinats.
Si Dupin n'a pas su, quoi qu'il ait d'instinct tout compris d'A à Z,
il n'y aura pas pour moi d'absolution, nota Anton Veil dans son journal. Ah, ça je connais. Pérec vient d'écrire en cabot et en 2 pages la lettre volée d'Edgar Poe. Mais pourquoi ?
Ah, la lettre volée. La lettre volée.
Et cette phrase clé, si Dupin n'a pas su, quoi qu'il ait d'instinct tout compris d'A à Z, il n'a pas trouvé la lettre volée. Et muni de cette nouvelle petite clé de lecture, je vous propose de reprendre à zéro la lecture de la disparition. Ce petit morceau de clé de lecture que nous venons peut-être de découvrir nous oblige à reprendre la disparition de Georges Perec avec un œil neuf, en cherchant non plus le fil de l'intrigue, mais peut-être plutôt des signes, des indices, des clins d'œil de l'auteur. L'avant-propos débute par l'expression « trois cardinaux ». En première lecture, nous y avons vu 3 hommes d'église, interprétation renforcée par le rabbin qui les suit immédiatement. Mais maintenant qu'il s'agit de chercher des signes, au risque de la surinterprétation, 3 cardinaux pourraient être 3 points cardinaux. Ce qui pourrait nous entraîner dans un monde où la rose des vents ne marquerait que 3 directions. L'une d'elles aurait disparu. Laquelle ? Je vous laisse deviner. J'ajoute qu'un monde dans lequel une des 4 directions serait interdite est un demi-monde où toute une série de nos actions quotidiennes oblige à d'étranges cheminements. Nous voilà donc plongés, dès les 2 premiers mots, dans une fiction dont on se dit qu'on n'en verra jamais le bout. Mais nous avons maintenant une nouvelle méthode de lecture. Il s'agit de chercher un signe plutôt que le fil du récit. Un signe, un mot, un nom. Et je retrouve ce passage de Pérec, page 42. L'on voudrait un mot, un nom. L'on voudrait rugir, voilà la solution. Voilà d'où naquit mon tracas. L'on voudrait saisir un point initial. Mais tout a l'air si flou, si lointain. Je reprends donc ce passage que je trouvais pénible tout à l'heure et qui avait failli me faire abandonner totalement le roman. J'étais alors en lecture automatique et je cherchais désespérément le fil du roman. Ici, maintenant, je cherche un signe. Ce pourrait être le mot sphinx. Au mot sphinx, Wikipédia me renvoie à l'animal mythologique, ce qui correspond bien à la situation décrite par Pérec tout à l'heure. À la lecture de l'article, un nouveau mot en relation directe avec l'énigme de Pérec s'impose. Oedipe. Ce O majuscule, ce machin dans l'eau. Ça a dû plaire au père Pérec. Oedipe, c'est ce personnage mythologique, maudit, dont le destin est de tuer son père et d'épouser sa mère. Très jeune, il décide de fuir cette fatalité en prenant la route. Un jour, il trouve en travers du chemin le sphinx, ou la sphinge, selon les versions, qui lui impose de résoudre la plus célèbre énigme de l'histoire de la littérature s'il veut passer.
Quel être pourvu d'une seule voix a d'abord quatre jambes le matin, puis deux jambes le midi et trois jambes le soir? Œdipe trouva la solution. Il s'agissait de l'homme. De fait, lorsqu'il est enfant, il a quatre jambes, car il se déplace à quatre pattes. Adulte, il marche sur deux jambes. Quand il est vieux, il a trois jambes lorsqu'il s'appuie sur son bâton. Je reprends donc avec ces nouveaux yeux, avec ces nouvelles références, le passage qui tout à l'heure m'avait tant déplu. Un jour, il imagina tout un roman. Il y aurait dans un pays lointain un garçon, un bambin du nom d'Aignan. Donc Œdipe est devenu Aignan. Pas mal. Il aurait 5 ans. Encore cette référence au 5 qui revient de nombreuses fois dans le roman, trop pour être une simple coïncidence, il faudra bien résoudre cette énigme-là aussi. Un jour, sa nounou lui disait « Jadis, tu avais ici 25 cousins. » Ils sont donc 26 en tout, ce 26 qu'on a déjà trouvé plusieurs fois aussi dans le roman, les 26 magistrats qui se font guillotiner à Nancy dès la première page, et d'autres endroits encore. Il faudra aussi éclairer ce que ce 26 veut dire. Est-ce que c'est un nombre mythologique ou autre? En tout cas, nous tenons là peut-être aussi une autre piste. Mais un à un, ils ont tous disparu. L'on n'a jamais su pourquoi. Aujourd'hui, tu dois partir à ton tour, sinon nous allons tous à la mort. Le destin. Alors Aignan fuyait. Au sortir d'un layon, un sphinx assaillait Aignan. « Voilà, dit l'hallucinant animal, un parfait sandwich pour mon fricot. Ça faisait un laps qu'on n'avait plus vu un niard aussi dodu sous nos climats. « Hola, sphinx, hola !» fit Aignan, qui connaissait Lacan mot à mot. « Un instant, voyons, tu dois d'abord accomplir ton fatum. »« Mon fatum, fit surpris l'animal, à quoi bon? Tu fais du chichi ? Nul n'a jamais su la solution. » Il ajouta, pris d'un soupçon subi. « La saurais-tu par hasard ?»« Qui sait ?» dit Aignan, souriant d'un air coquin. « Tu as un air fanfaron qui nous plaît tout à fait, vilain avorton, » poursuivit l'insinuant sphinx. « Soyons donc fair-play. Ton ambition adoucira ta mort. Voici mon oral ultimatum. » Il saisit un luth, prit son inspiration, puis s'accompagnant, chanta. « Y a-t-il un animal qui est un corps fait d'un rond pas tout à fait clos, finissant par un trait plutôt droit ?»« Moi, moi !» cria alors Aignan. Fallait-il être aveugle pour ne pas lire ce qui crève maintenant les yeux? Cette énigme, transformée de manière magistrale et dont la solution est évidemment... Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je reprends. Eh bien, retour au chapitre 4. Un autre passage m'avait furieusement mis la puce à l'oreille. Juste après le passage de la lettre volée, Anton Voile écrit une mystérieuse lettre à ses amis qui se termine par ce post-scriptum non moins énigmatique. « Portons 10 bons whisky à l'avocat Goujat qui fumait aux eaux. » Portons 10 bons whisky à l'avocat Goujat qui fumait aux eaux. Voilà qui m'a immédiatement fait penser à ce merveilleux alexandrin. Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. Ce verre n'est pas seulement un merveilleux alexandrin, c'est aussi un pangramme. Il contient les 26 lettres de l'alphabet. Ah tiens, 26. Peut-être une piste de plus. Je reviendrai plus longuement sur les pangrammes et sur Pérec et les pangrammes dans une prochaine intervention. Quant à notre portons 10 bons whisky à l'avocat Goujat qui fumait aux eaux, vous comprendrez que je ne puisse pas en dire plus sans ravir au lisant subtil tout plaisir. Dire seulement qu'une fois de plus, on se demande s'il s'agit de nourrir le fil et l'intrigue ou bien de faire un clin d'œil au lecteur. Les amis d'Anton iront successivement aux eaux pour y chercher un avocat fumant, et en plus ils en trouveront un, puis à Longchamp pour y voir courir un cheval du nom de Whisky 10. Autant de fausses pistes pour nos héros. Pour le lecteur, Pérec s'amuse, nous tirons tous la langue. Heureusement que parfois, quelqu'un nous prend un peu par la main pour nous aider à lire. Merci ici à Marc Parère, dont le travail sur Lire la disparition est arrangé définitivement dans la catégorie poésie lui aussi. Pour terminer, allons jeter un coup d'œil sur la table des matières. Se pourrait-il que, comme dans le roman de Meurice, il y ait un clin d'œil et 6 chapitres correspondant aux 6 voyelles ? Non, évidemment, il y a du coup 26 chapitres. Mais effectivement, rangé dans 6 parties, la 6e partie correspondant au 25e chapitre, je crois que nous tenons quelque chose. Mais du coup, le 5e chapitre... Ah, effectivement, il n'y a pas de 5e chapitre, ni de 2e partie d'ailleurs. Une ligne blanche dans la table des matières. Mais dans le livre alors... une page blanche géniale et poétique, devant laquelle on passe sans rien y voir, une fois, deux fois, 10 fois, puis qu'on redécouvre comme une page de la plus grande poésie. Je vous l'avais promis. Voilà, on pourrait passer des heures dans ce roman et chaque fois y être nouvellement ébloui. J'en termine donc avec une nouvelle tentative désespérée d'Anton d'y voir plus clair par l'écriture. Voilà qu'il s'essaye au sonnet de manière magistrale, page 125. Vocalisation. A noir, un blanc. Irou, U safran, au azur. Nous saurons au jour dit ta vocalisation. A, noir carcan poilu d'un scintillant morpion qui bombinait autour d'un idoral impur. Caps obscurs, qui, cristal du brouillard ou du camp, harpon du fjordotin, roi blanc, frisson d'anis. I, carmin sans vomi riant ainsi qu'un lys dans un courroux ou dans un alcool mortifiant. U, scintillation, rond divin du flot marin, paix du pâti tissu d'animaux, paix du fin sillon qu'un fol savoir aux grands fronts imprima. O, finitif clairon aux accords déguisoires, soupirs ahurissants, nadir ou nirvana, O, l'omicron, rayon violin dans son voir. Arthur Rimbaud, Georges Perec. C'est donc sur ce dernier éblouissement que je vous laisse. Rentrez maintenant dans la disparition par vos propres moyens. La prochaine fois, je vous parlerai de mes propres travaux de poétaillon, de mes contraintes préférées, de mes recherches en cours et de mes aboutissements. Amis de la poésie et des mathématiques, à bientôt.